Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello les amis, ici Pauline Agneau et vous êtes sur Le Gratin. Et plus précisément, aujourd'hui nous sommes évidemment, puisque c'est mercredi, sur une leçon du gratin. Dans la leçon du jour, je suis avec Constance. Constance est une créatrice d'entreprise. Elle vient de lancer un concept vraiment très sympa qui s'appelle Toit de Paris. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode pour que vous alliez y faire un tour. Alors Toit de Paris, c'est quoi? C'est quelque chose dont elle va nous parler d'ailleurs dans le podcast. Un peu un morceau du patrimoine architectural de Paris. C'est-à-dire que vous pouvez demander à Constance et à l'équipe de Toit de Paris de partir, si vous voulez, ou de créer pour vous un morceau de toit qui sont ces fameux toits gris de l'époque haussmannienne pour pouvoir en faire, par exemple, un cadeau. Donc vraiment un fragment, une empreinte. Je trouve un très joli concept qui peut être personnalisé. Bref, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que Constance a une question très intéressante. Elle me dit, Pauline, je développe Toit de Paris et j'essaye d'avoir une communauté grandissante, un sujet qui, je suis sûre, parle à de nombreux d'entre vous. Et je me pose la question suivante, est-ce que je dois obligatoirement, est-ce qu'il est absolument nécessaire d'incarner sa marque sur les réseaux, comprendre en faisant des face cam, etc. sur Instagram, pour développer la notoriété de la marque, et en l'occurrence de Toit de Paris? Évidemment, j'ai voulu répondre à Constance en lui disant que non, bien sûr, il n'est pas obligatoire de faire des face caméra toute la journée pour réussir à développer une activité, mais pour autant que c'est un sacré accélérateur. Si vous voulez en savoir plus, eh bien ça se passe dans la leçon du jour. Donc je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Constance ?
Allô Pauline, bonjour !
Bah bonjour, merci à toi d'avoir postulé à cette leçon du gratin. Constance, tu connais le principe, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon du gratin?
Très bien, alors merci de m'avoir invitée. Je suis Constance, j'ai lancé le Toit de Paris il y a quelques mois. Alors le Toit de Paris, c'est en fait un objet design issu des Toits de Paris, un morceau d'histoire et du patrimoine architectural de la ville de Paris. Pourquoi c'est un morceau d'histoire? C'est parce qu'en fait, au milieu du 19e, le baron Haussmann a fait des grands travaux et a décidé pour la toiture de Paris d'utiliser majoritairement du zinc. C'est pour ça que tous les toits de Paris aujourd'hui sont gris, parce que ça permettait en fait d'avoir une toiture un peu moins pentue et d'agrandir la surface habitable des toits. Et ainsi, on avait en fait les premières chambres de bonne.
D'accord.
Et nous, c'est ça qui m'a intéressé en fait, c'est de pouvoir proposer aux gens un morceau de leur ville, un souvenir.
Hyper sympa. Et donc du coup, concrètement, tu proposes de reprendre un petit morceau d'un toit, quoi, d'un vrai toit.
Exactement. En fait, on va récupérer des feuilles qui vont être remplacées sur les toits. Mmh. Et on a essayé d'en faire un objet un peu surprenant en racontant un peu son histoire, d'où elle vient, en quelle année elle a été posée.
Hyper chouette.
On a travaillé la feuille de zinc arrive complètement un peu abîmée. On va la nettoyer, la découper, la poncer, la sérigraphier et puis la plier.
Hyper, hyper sympa. Franchement, j'adore l'idée. Mais du coup, j'ai l'impression que malgré cette très belle idée, tu as quelques sujets en ce moment qui te taraudent. Est-ce que tu pourrais me dire lesquels pour qu'on essaie de répondre ensemble?
En effet, c'est plutôt sur les réseaux sociaux, donc Instagram en l'occurrence. Mm-hmm. Ce que j'ai pu remarquer quand j'ai lancé aussi, même sur la plateforme Ulule, la campagne pour trouver des financements pour la première production, c'est que les jeunes entrepreneurs comme moi, les porteurs de projets, souvent se mettaient en scène pour essayer d'incarner leur produit, leur marque, et je me demandais si c'était quelque chose en fait d'indispensable voire d'incontournable d'avoir un visage pour son produit sur les réseaux.
Mmh. C'est une bonne question. T'es pas la seule à me la poser, pour être honnête. Incontournable, la réponse est évidemment non. Je pense que le plus important, c'est que chacun fasse quelque chose qui lui ressemble. Et si t'estimes que la plateforme de marque, si j'utilise des mots un peu techniques des Toits de Paris, c'est en fait de rester, par exemple, dans un univers, tu vois, qui est purement, minéral, parce que architecturé, t'es dans cet univers-là, et que du coup, tu veux pas du tout mettre en avant de gens, et donc pas toi ou les personnes avec lesquelles tu travailles. Évidemment, c'est possible. Après, il faut aussi voir les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, incarner sa marque fait partie des choses qui sont des accélérateurs, notamment sur les réseaux sociaux. C'est un peu, et ça c'est Guillaume Gibault qui prend souvent cette expression et je la trouve plutôt chouette, tu sais, comme quand t'es sur Mario Kart et il y a de temps en temps, t'es en train de conduire, je sais pas si tu joues aux jeux vidéo, et puis de temps en temps, t'as ces petites flèches qui sont sur le sol et là, bam, tout d'un coup, ça t'accélère. Bah, c'est un peu la même histoire, si tu veux, avec le fait d'incarner sa marque, parce qu'en fait, ça va donner une voix, ça va donner une image, ça va donner un visage, hein, tout simplement, à une marque, à un produit. Et en fait, tout ça fait que l'engagement pour la marque est en général plus fort. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas du tout impossible, parce que c'est ça ta question, de réussir à performer sur les réseaux sociaux et à faire une très belle marque sur les réseaux sociaux qui ne soit pas extrêmement incarnée. Mais je dirais que c'est peut-être à l'heure actuelle un petit peu plus difficile. Donc, c'est un vrai choix, si tu veux, qu'il faut faire. Là où on peut en discuter, ça peut être intéressant, c'est que la bonne nouvelle dans la vie, c'est que les choses sont rarement gravées dans le marbre, en fait, contrairement à l'architecture, et que tu peux commencer, et c'est souvent une bonne stratégie d'ailleurs de marque, par incarner ta marque au départ, parce que c'est plus facile, ça va te faire accélérer, parce que ça va créer plus d'engagement. Instagram, l'algorithme valorise l'engagement, hein, c'est aussi bête que ça, et donc va mettre plus de portée organique sur tous les contenus que tu vas créer si jamais ben ceux-ci sont plus engageants. Donc, si tu veux, c'est un peu arithmétique. Tu auras tout simplement plus de followers si jamais, a priori, tu incarnes bien ta marque. Hein. Évidemment, si tu le fais mal, je dis pas que ça marchera. Mais à l'inverse, t'es pas obligé de le faire toute la vie de ton entreprise et toute ta vie. Tu peux décider de le faire au début de ton aventure, te dire, ben je vais essayer de le faire pendant un an, je vais voir si ça marche et puis si ça me plaît. Et ensuite, décider que toi, ta vision à terme, c'est effectivement de pas incarner ta marque, parce qu'en fait, ta vision long terme, c'est que ça va être quelque chose justement de par exemple, très policé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que il faut quand même que t'aies envie de sauter le pas. C'est quand même un parti pris qui est pas évident. Moi, je sais que j'ai plein de personnes qui me disent, mais moi, honnêtement, me prendre en vidéo devant mon téléphone, mais quel enfer.
C'est ça.
Et là, enfin, je sais pas quelle est ta réaction vis-à-vis de ça, mais c'est finalement... Pour quelle raison est-ce que t'as pas envie de le faire? Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est pas conforme à ton histoire de marque, ou est-ce que c'est parce que tout simplement tu te sens pas à l'aise à l'idée de le faire?
Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que comme beaucoup de gens, je suis pas forcément à l'aise. Ça, c'est une des premières raisons, mais que je souhaiterais dépasser s'il s'agit évidemment de porter le projet à un autre niveau. Parce que le but, c'est évidemment de pouvoir faire connaître Toits de Paris. Et je veux pas me cacher derrière la timidité ou être introvertie. Hein. C'est comme quand vous parlez des ventes, il faut se dépasser finalement. Mmh. Mais par ailleurs, je sais que je ne suis que moi, et j'ai peur que ce soit un peu réducteur par rapport au Toit de Paris, qui pour moi est un objet qui a tout ce que j'aime, c'est-à-dire de l'émotion, une histoire et un design. Et j'ai l'impression que si je ne suis que moi, je comprends l'idée d'humaniser un produit, puisque finalement c'est ça que tout le monde cherche à faire, c'est-à-dire qu'au départ, un objet, une marque, c'est quand même un peu compliqué pour les gens de s'identifier, de comprendre. Alors finalement, quand on met un visage, ça crée des émotions, ça humanise. C'est pas pour rien que quand les acteurs doivent parler de leur film, ils viennent le défendre. Mmh. Je comprends tout à fait ça. Et comme je vous le disais, d'une certaine façon, moi, ça ne me dérange pas en interview, radio ou papier, de défendre. Ça, j'adore défendre mon projet. En revanche, à l'idée de voir ma tête, parce que finalement je suis seule derrière les commandes pour l'instant, donc je vais monter mon projet et finalement je vais voir un petit peu tous mes défauts, mes types de langage, mon physique. Moi, j'ai pas forcément envie de m'attarder sur ce type de détails, parce que finalement c'est évidemment la marque que je vais vouloir défendre, donc je vais vouloir être d'une certaine façon à la hauteur de cette marque, et donc ça demande un travail très important. Et voilà, ma question, c'est est-ce que je réduis pas finalement l'image du Toit de Paris à ce que je suis moi, et parfois voilà, est-ce que c'est pas bigger than me?
Alors,
c'est ça qui m'intéresse dans ce projet,
tu vois. C'est intéressant, et par exemple, Moi, je pense répondre pas mal à ta question parce que si tu regardes mon compte Instagram, donc je me montre assez volontiers. Moi, avec Gémio, si tu veux, je suis un exemple assez parlant, je pense, de ça. C'est que tout simplement, je me mets en avant sur mon compte, hein, faut être clair, mon compte perso, mais par exemple, sur le compte de Gémio, je suis très peu présente. Et quand je le suis, mon image, elle est quand même beaucoup, beaucoup plus chiadée, on va dire, que sur mon compte, qui est assez authentique, si tu veux. Parce que Gémio est une marque de joaillerie, que du coup, on veut montrer notre exigence, et c'est probablement ce que tu souhaites faire également. Et donc, je fais effectivement pas n'importe quoi. Mais ça, c'est là que le travail devient intéressant. C'est que, en fait, tout le monde est persuadé que faire de l'influence, que incarner sa marque, c'est se faire un facecam, en mode ah, c'est la galère aujourd'hui les amis, genre 100% de spontanéité, 100% de transparence, etc. Non, en fait, si t'es une marque de joaillerie, si t'es une marque qui veut faire rêver, tu ne parles pas de ça. Tu peux en parler si c'est ta plateforme de marque, mais c'est pas la plateforme de marque de tout le monde. Et ça ne veut pas dire que t'es pas authentique, ça veut juste dire que tu veux quand même faire rêver. Et en l'occurrence, je pense que toi, si c'est ton parti pris, et je pense qu'il peut être honnêtement assez merveilleux, parce que t'as un univers quand même avec les toits de Paris qui est, enfin voilà, qui est juste fabuleux. Bah moi, j'aurais envie de foncer là-dedans. Mais donc, si tu veux, là où ça devient intéressant, c'est que tu as un travail, toi, de direction artistique à faire, c'est-à-dire te poser la question, comment est-ce que je peux quand même incarner un minimum ma marque ? Parce que je sais que quand même, ça va fonctionner, que ça va permettre à ma clientèle de mieux s'identifier, de connaître l'envers du décor, de comprendre en fait la mission derrière la marque. C'est aussi ça quand même le but. Mais en même temps, le faire de manière la plus valorisante possible en restant vraiment dans la désirabilité. Et là, en fait, il y a un travail à faire. Mais honnêtement, il peut être hyper intéressant. Ça peut être, si tu veux, de jamais montrer ton visage, de toujours rester finalement une ombre. Ça peut être uniquement montrer tes mains qui travaillent. Ça peut être plein de choses, si tu veux. Ça peut être d'écrire de très beaux textes, mais avec des belles images, sans forcément, tu vois, faire un face cam. Franchement, il y aurait plein de manières de l'aborder. Je te donne un exemple d'un compte Instagram que je suis et qui est intéressant, je trouve, à cet égard. Je sais pas si tu connais le compte Instagram Philosophy is Sexy. C'est un compte d'une philosophe, un prof de philo, qui en fait se met assez peu en avant sur son feed. Son feed est très esthétique parce que je pense qu'elle, elle veut justement montrer quelque chose d'esthétique autour de la philosophie. J'imagine que sa plateforme de marque, c'est bah, de faire en sorte que les gens trouvent la philosophie désirable, comme le nom du compte l'indique. Et donc, en fait, elle se dit, bah, moi, j'ai envie de rester dans le rêve, j'ai envie de rester dans le désir, et donc, je vais pas montrer toute mon authenticité. C'est-à-dire que oui, je suis authentique dans mes propos, dans mon texte, mais par contre, dans l'image, en revanche, je vais rester hyper statutaire. Et son compte, tu vois, est des images majoritairement, si je me trompe pas, en noir et blanc, et elle fait clairement une curation de son compte, quoi, pour qu'il soit esthétique. Donc, ce que je veux dire, c'est que toi, tu pourrais tout à fait faire ça, et ça peut très bien fonctionner juste avec des très bons textes, par exemple. T'es pas obligé d'incarner ta marque en faisant un facecam. J'ai vraiment envie que les gens arrêtent de penser ça, parce que en plus, déjà, tout le monde n'est pas bon pour le faire. On n'est jamais bon dès le départ, hein, c'est sûr. Enfin, même moi, je peux dire que la première fois que j'ai commencé à le faire, je me rappelle très bien au salon des entrepreneurs, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de parler à mon téléphone, mais c'est tellement ridicule, quoi, tellement ridicule. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, alors que personne n'en avait rien à foutre. Hein. Et en fait, voilà. Mais avec la pratique, il se trouve que j'ai trouvé, je pense, ma voix, et que maintenant, ça me plaît plutôt bien, parce que j'ai l'impression que ça aide aussi d'autres personnes. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Et toi, si t'as pas envie de le faire, faut pas que tu te sentes obligé. En revanche, je trouverais ça dommage, personnellement, que tu mettes pas un peu de toi, Constance, dans le toit de Paris pour incarner davantage ta marque, tu vois, que uniquement, on va dire, des visuels de ce que vous faites. Pour qu'on voit pas uniquement le travail, mais qu'on voit aussi les gens qui sont derrière. Et ça peut se faire de plein de manières différentes.
Je comprends. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'arrive d'une certaine façon à trouver quelle valeur ajoutée je peux apporter. Effectivement, ce qui est sûr, c'est que moi, je me voyais pas comme tu disais sur le côté coucou, c'est moi. Enfin, parce que c'est ça fonctionne pas avec le projet que j'ai lancé. Mais il y avait aussi cette dimension où je ne voulais pas que, en étant trop présente, que ma d'une certaine façon, comme on met en scène, que je mette ma vie en scène. Et du coup, il y a ce côté où c'est possible de le faire
mais complètement.
De temps en temps. Voilà, parce que de temps en temps, dans ce cas-là, on est tous, voilà, quand on a une interview à faire, on essaie d'être au top pour que, effectivement, on fasse rêver les gens. Parce que l'idée, voilà, de ce projet, c'est aussi ça, c'est-à-dire que les gens aient un morceau de toit de Paris, parce que les toits de Paris, ça fait rêver. Et on n'a pas, enfin, en plus, moi, c'est vrai que j'ai un background un peu cinéma, et c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal parfois à voir ce visage assez mal cadré avec une lumière pas forcément jolie. Je trouve que c'est un peu difficile pour moi à regarder, tout simplement.
Bah, je comprends. Et je pense que c'est tout à ton honneur. Et je te dis, il y a plein d'options possibles. Il y a l'option, pardon, que t'aies un compte Instagram séparé qui soit le tien où tu parles de l'aventure de ta marque, qui est ce que j'ai fait avec Gémio. Il y a une autre option qui est que tu sois présente de manière subtile et esthétique sur ton compte officiel pour pouvoir incarner la marque, mais en respectant, si tu veux, tes critères d'esthétique. Puis sinon, il y a l'option que vraiment t'investisses voilà à mort sur de la, on va dire de la, tu vois, de la mise en scène pour que par certains moments tu puisses véhiculer les valeurs de la marque, la mission, l'histoire, mais au travers de d'images qui auront été suffisamment chiadées pour pouvoir les mettre en avant. Honnêtement, tout est possible. Je pense juste qu'il faut que tu réfléchisses un petit peu, que tu te lances aussi, bien sûr. Et puis que tu te dises pas que tu vas y arriver parfaitement tout de suite. Il est évident, si tu veux, que tu vas commencer, que tu vas découvrir des choses au fur et à mesure, et c'est en faisant que tu vas trouver ta voie, et c'est en faisant que tu vas progresser et réussir à trouver, tu vois, exactement le bon style. Donc au départ aussi, quand même, sois prête à te rendre compte que ça va pas être parfait tout de suite, c'est évident.
Bien sûr, mais de toute façon, l'avantage, c'est que quand on démarre, enfin, ça, vous en parlez beaucoup dans vos podcasts, c'est qu'on est là pour se tromper, que c'est pas grave, on a peu d'abonnés, que on apprend justement à, en échangeant, on est presque en direct avec nos abonnés, c'est ça qui est sympa, c'est que c'est très cool au début. Moi, je suis pas du tout stressée de faire des erreurs, et au contraire, parce que je sais que c'est ce qui me permettra d'aller là où je souhaite aller. Donc ça, c'est vraiment super pour ça. Non, mais effectivement, il faut. Je pense que je comprends vraiment l'idée d'humaniser. Ce qu'il faut, c'est effectivement pas se trahir en n'étant pas qui on est, parce qu'effectivement, on sera pas sincère et ça marchera pas. Mais c'est vrai que c'est sans doute aussi ça, c'est-à-dire que plus on le fait et plus on se détache de son image, et plus c'est simple et moins on est crispé à l'idée de se montrer, parce qu'on sait pourquoi on le fait.
Exactement, exactement. Mais je pense que t'as très bien compris, en tout cas, mon message, qui est de dire qu'il n'y a pas de recette magique et qu'on n'est pas obligé. J'ai beaucoup aimé quand t'as posé la question, tu disais, est-ce que tu penses que c'est incontournable, finalement, d'incarner sa marque? Non, c'est pas incontournable. Et puis surtout, il y a mille manières de le faire. Moi, je pense que ce qui marche, d'accord, finalement, c'est quand on est réellement authentique et pas quand on prétend qu'on l'est en se faisant un face cam, tu vois. Et donc, moi, j'aurais envie de te dire, ben, il va falloir que tu bosses un peu là-dessus, que t'en discutes autour de toi, mais que t'essayes de craquer. Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à parler de ta marque en mettant de toi dedans, que ça soit auditif, enfin visible, que ça se comprenne, mais en respectant, si tu veux, qui tu es, c'est-à-dire en dénaturant pas ton propos. Si jamais t'es pas à l'aise à l'idée de parler face cam, ben ça sera pas comme ça. Ça peut être via un texte, une fois de plus. Ça peut être, si tu dis que tu venais de l'univers du cinéma, pourquoi pas un texte qui défile, tu vois, sur un poste. Enfin, il y a plein de choses à imaginer.
Ok, bah merci beaucoup. Non, ça m'aide énormément, et c'est vrai que on essaie tous de s'inspirer de comptes différents, mais c'est vrai qu'il y a une grande tendance à incarner, à mettre un visage, et c'est vrai que c'est tout à fait logique, finalement. Les gens aiment suivre aussi une personne. Finalement, c'est un peu grâce à Steve Jobs, hein, qui a vraiment incarné complètement Apple, que sans doute les jeunes entrepreneurs ont compris qu'il y avait ça à faire, et puis finalement, c'est bien aussi que chacun puisse mettre sa personnalité. On n'est pas tous des Steve Jobs.
Exactement.
Ou en tout cas aussi, il y a ça que je me disais, c'est-à-dire que Steve Jobs, là où c'est fort, c'est qu'il vend des téléphones. Et finalement, c'est peut-être aussi ça, c'est que certains objets qui sont plus utiles au quotidien, il faut sans doute encore plus les humaniser, encore plus mettre un visage derrière. Et vous parliez d'une marque Montblanc, il me semble qu'ils avaient Hugh Jackman au départ, et finalement, ils disaient que ça ne peut pas être qu'un seul visage, ouais, de marque, et c'est vrai. Et c'est ça aussi aussi qui est pas forcément évident, mais c'est vrai que bon, je reste une toute jeune marque et c'est le tout début et finalement il faut prendre des risques et voilà, le faire avec qui on est mais quand même tenter des choses et voir où ça nous mène.
Exactement, tenter des choses, c'est je pense le bon mot. Ce qui est certain, c'est que plutôt que de rester, tu vois, coincé dans sa tête, je pense que le fait de tester des choses va t'apporter énormément de retours parce que tout simplement tu vas avoir des feedbacks de ton audience, même si pour l'instant elle n'est pas énorme, et donc ça te permettra quand même de pouvoir aviser ensuite, reprendre de nouvelles décisions et avancer. Et c'est comme ça que tu vas réussir à trouver ta voie. Donc il faut que tu testes plein de choses différentes, en respectant évidemment quand même qui tu es, mais je t'engage vraiment à le faire, parce que à l'inverse, ce qui serait dommage, c'est que entre guillemets par crainte ou par envie de pas trop d'exigences, mais par certaines barrières mentales, que tu ne fasses rien. Et ça serait vraiment trop dommage.
Ok.
Bon, écoute, Constance, en tout cas, merci mille fois pour ta question. C'est hyper intéressant. Tiens-moi au courant pour la suite. Tiens-moi au courant de ce que tu décides. Et puis moi, je mettrai évidemment tous les liens vers toi de Paris sur le podcast pour qu'on puisse consulter cette belle idée.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.